Welcome to Radio Campus Air.
Écoute ta fac.
Écoute ta fac. Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur.
On va la refaire celle-là ?
Hello, hello, il est midi sur Radio Campus Orléans et vous êtes sur Écoute ta fac. Aujourd'hui, je suis en studio avec Anna et Marine. Bonjour.
Salut.
Pourquoi on n'entend pas ? Anna, bonjour.
Bonjour.
Ouais, Marine, bonjour.
Salut.
Hello, comment allez-vous ?
Super.
Très bien.
Très, très bien. Moi aussi, sauf que j'ai très froid et ça me saoule. J'aime pas ça. Du coup, aujourd'hui, on va s'écouter les chroniques de nos magnifiques stagiaires, les stagiaires de Radio Campus Orléans. Produits et réalisés par eux-mêmes, montés aussi, sur des sujets qui les intéressent. Dans un premier temps, vous écoutez la chronique de Vlada sur l'intelligence artificielle, une d'Anastasia sur les femmes dans la publicité, une de Marina à propos du travail des étudiants étrangers et une de Leonardo sur la musique angolaise. Puis hier, Marine et Anna sont sorties faire une petite balade dans le campus universitaire pour voir le moral des étudiants en cette période d'examen. Et pour la fin d'émission, c'est encore le jeu des naissances et des morts featuring l'équipe de Radio Campus. Alors pour le coup, je vous lance Propaganda de Bruce Falkian.
Bruce Falkian is a world famous contemporary artist who exhibits at the world's most prestigious art galleries and fairs. Bruce Falkian moonlights as an agent of espionage against the terrorism industrial complex. Wait, what? To understand Bruce Falkian, we first must understand the link between image and war. In the late 1800s, the precursor to the video camera was invented. It was directly inspired by guns, specifically Samuel Colt's revolver. It borrowed not only its general mechanics, bullets for explosions, but its terminology too. Load, point, scope, aim, shoot, flash. The camera and the gun, united by cordite, will go on to prove the most efficacious tools in shaping the modern world.
Alternative to socialist realism art.
are dangerous because we are bad at perceiving what is real, as any jump scare, deep fake, newsreel will attest to. Videos aren't technically real, they are only a collection of rapidly changing static images, which give the illusion of movement. It's easy for us to collectively decide that a video is real, because that's the way our brains perceive reality. People who live the world of media understand this, which is how they are able to control us, because invade foreign countries, vote for specific politicians, feel ugly or fat. However, ubiquitous as they are, it seems that the image is in crisis. It seems that we've run out of them. Or perhaps our understanding of an image is changing with the aid of near instantaneous text-to-image AI technology. What does this mean for GANs? What does this mean for war? How will images be used as an aid to war in the 21st century? Remains to be seen if Bruce Falcon will be a useful agent.
Vous êtes toujours sur Écoute à Fac, Radio Campus Orléans 88.3. On commence avec la chronique de Vlada.
Bonjour, vous écoutez Radio Campus 88.3. Je m'appelle Vlada et aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle. La disponibilité de l'intelligence artificielle et des assistants basés sur l'IA est devenue un avantage aujourd'hui. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Tout d'abord, il est nécessaire de dire que l'IA est devenue la solution à de nombreux problèmes. En effet, l'IA est de plus en plus présente dans nos vies. Grâce à l'IA, nous avons la possibilité d'économiser notre ressource la plus précieuse, notre temps. En accomplissant des tâches à notre place, il facilite notre vie, surtout dans le domaine de l'apprentissage. Cependant, comme certains étudiants le disent, l'utilisation de l'IA est déjà devenue une habitude quotidienne. Cela comprend que nous pouvons déjà envisager que tes outils présentent un risque d'avoir de la dépendance pour le futur proche. On ne peut pas nier le fait que les capacités de l'IA se développent rapidement et s'entendent en nombre croissant du domaine à une vitesse incroyable. Pourtant, avec chaque nouveau service et l'application, nous rapprochons de la perte de valeur d'un nombre croissant de professions et de spécialistes. En tout cas, il sera préférable de se préparer à ces changements. Non moins préoccupant est le fait que les capacités de l'IA ne se limitent pas à l'exécution de simples tâches techniques. Il peut également accomplir une large gamme de tâches créatives. À titre d'exemple, le programme très populaire actuellement, DALL-E 2 d'OpenAI, peut générer n'importe quelle image et composer des peintures. Cela signifie que l'IA menace même les travailleurs de professions créatives. Il n'est pas surprenant que cette technologie ait été appréciée dans le monde commercial et qu'elle soit déjà utilisée par de nombreuses entreprises, dont Google, Spotify, Nike et Amazon, pour la publicité et la promotion. Par contre, il est important de noter que l'IA a des limites dans les tâches créatives et ne peut pas être un substitut au cerveau humain. Par exemple, elle n'est pas capable de générer des idées absolument nouvelles qui vont au-delà de son expérience. Elle ne peut pas comprendre ni apprécier la créativité humaine, ni leurs émotions. En résumé, il faut dire que la question de l'IA est encore controversée aujourd'hui. Bien qu'il ait un potentiel énorme, elle est également imparfaite comme l'homme et a ses propres défauts. Le mal ou le bien de l'intelligence artificielle est déterminé par la façon dont on l'utilise. D'une part, cette créativité artificielle représente une menace pour les créateurs, et d'autre part, elle leur ouvre des possibilités et des horizons totalement nouveaux. Souvent, tout est une question de vision. Je vous laisse réfléchir à cette question et je vous souhaite bonne soirée.
Vous pensez quoi de l'intelligence artificielle ?
Ah là là, vaste question.
Vous avez une heure.
C'est ça. Oui, je sais pas. Moi, je suis assez dubitative vis-à-vis de l'IA, surtout pour la question des deepfakes. Oui. Sur les réseaux sociaux et tout ça. Et du coup, je trouve que ça rajoute une dimension aux violences sexistes et sexuelles qui est assez dangereuse, quoi.
C'est vrai, ouais.
Non, et toi, moi, je suis mitigée aussi. Hein. Mm-hmm. Enfin, et des moyens de s'en servir, c'est sympa pour apprendre des choses, rigoler un peu, les montages et trucs, mais...
Ça après, fait peur ça quand même.
Oui, voilà. Ça touche un peu à la sensibilité de chacun.
Ouais. Voilà. Bah, moi aussi, ça me fait peur. Je sais pas, je trouve qu'un jour, on va être remplacé par des robots. Mmh. Et ça n'a pas l'air sympa.
Clairement.
C'est pas ça. Ensuite, je vous lance la chronique d'Anastasia sur les femmes dans la publicité. J'espère que je me trompe pas. Oui, c'est ça, la femme dans la publicité. You don't know me. I'm not just one of your many toys. You don't know me. Don't say I can't go with other
La publicité en tant qu'art reflète les processus majeurs de la société. Elle ne se contente pas de représenter les normes acceptées, elle les définit également. En observant ce qui se passe sur un écran ou une affiche publicitaire, une personne assimile des informations sur les règles de comportement dans la société, y compris les rôles de genre et les normes de masculinité et de féminité propres à la culture. De plus, il ne faut pas oublier que les publicités des marques connues et prestigieuses ont un peu plus d'influence sur les spectateurs.
Il a l'argent. Il a le pouvoir. Il a une Audi. Il aura la femme.
Quelles sont les conséquences néfastes ? Première, c'est l'objectivation. L'objectivation consiste à traiter les personnes comme des objets et à les réduire à des objets de plaisir et de satisfaction sexuelle. Cela peut conduire à la normalisation de la violence sexuelle et d'autres formes de violence contre les femmes. De plus, l'utilisation du corps féminin uniquement pour attirer l'attention sur un produit ou un service en fait un objet de vente.
Ça a commencé par des allusions.
Des reproches. Des petites phrases.
Des regards que j'ai d'abord ignorés.
Ensuite, des humiliations et des insultes en public. Des paroles comme...
Deuxième, c'est création des faux idoles. Création des faux idoles, avec le développement des technologies de retouche photographique, les corps féminins sont devenus non seulement parfaits, mais aussi anatomiquement impossibles. Compte tenu du fait que la poupée Barbie, à l'image de laquelle tout le monde aspire, n'existe pas dans la vie réelle. Ces normes irréalistes contribuent au développement de complexes d'infériorité, des limitations de la conscience de soi et de l'expression de soi chez les femmes. De la part de l'industrie et de la société, des limitations de carrière et d'inclusion sociale. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. Troisième, renforcement de stéréotypes. Renforcement de stéréotypes, le but de la publicité sexiste est de souligner la supériorité des hommes sur les femmes. Pour ce faire, tous les moyens sont bons. Par exemple, les femmes sont souvent représentées comme étant plus petites et plus basées que les hommes, plus instables émotionnellement, infantiles, dépendantes et souvent facilement accessibles. Cependant, dans ce cas, tout ce qui flatte l'ego masculin dévalorise les femmes. Les clichés de la femme épouse, de la femme mère et de la femme assistante sont renforcés. La normalisation de l'utilisation des stéréotypes de genre se fait avec l'aide et sous le couvert de l'humour, ce qui ne diminue pas leur caractère offensant. Les méfaits de cette publicité sont importants, car ce sont les stéréotypes de genre qui contribuent à perpétuer les inégalités.
À chaque fois, c'est la même idée, c'est comment faire pour que les femmes reprennent possession de tous ces sujets corporels et puissent les vivre et les éprouver pleinement, mais aussi librement. Et que tous ces domaines, sexualité, maternité, apparence, qui étaient jusque-là effectivement du côté de l'aliénation, eh bien, les femmes puissent les tirer du côté de l'émancipation et de la libération pour que, enfin, de corps objets, elles deviennent des corps sujets.
En France, comme dans mon pays, l'Ukraine, les femmes sont souvent victimes de discrimination dans la publicité. Elles sont objectivées et réduites à des corps sexuels cantonnés à des rôles stéréotypes de mère, d'épouse ou de femme au foyer. Malgré cela, je peux fièrement affirmer qu'en 2021, une loi contre le sexisme dans la publicité a été adoptée. Cette loi interdit les publicités qui utilisent des stéréotypes de genre ou qui dénigrent les femmes. La sanction pour cela est une amende sévère. Conscient de manière claire du problème de la destructivité de l'utilisation des femmes dans la publicité, ainsi que de tous les dangers qu'elle comporte, il est sérieusement temps de revoir le contenu qui nous entoure chaque jour et qui influence nos valeurs et perceptions du monde. Revoir le contenu pour qu'il promeuve le respect de chaque individu est une étape importante vers la création d'une culture plus saine et inclusive.
Don't tell me what to do, don't tell me what to say. C'est le sujet typique des femmes. Je sais pas comment le dire, mais j'en ai marre un peu de ce sujet. Parce que, je sais pas, je me dis, laissez-nous tranquilles, laissez-nous vivre un peu. Et y a un lien entre cette chronique-là et de Vlada. Genre la publicité, on parle de publicité, on parle de l'IA, on parle de génération, de, je sais pas, images, publicités, des publicités qui se font par l'IA. Et oui, ça crée des problèmes. Et non seulement avec l'IA, mais aussi des générations humaines, genre les publicités faites par les humains, et on trouve des problèmes avec. Avec l'IA, ça sera autre chose. Tout de suite, c'est la chronique de Marina sur le travail pour les étudiants étrangers.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission spéciale sur le travail pour les étudiants étrangers en France. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde du travail au sein des établissements universitaires français et découvrir comment ces opportunités contribuent à l'expérience des étudiants internationaux. En France, les étudiants étrangers ont la possibilité de travailler au sein de leur université d'accueil. Ces emplois d'une durée maximale de 12 mois sont conclus pour s'adapter aux horaires et au rythme des études, permettant ainsi aux étudiants de concilier travail et réussite académique. Quelles sont ces opportunités de travail? De l'accueil des étudiants à la rentrée aux activités de tutorat en passant par les animations culturelles ou sportifs, ces postes contribuent au bien-être et au vivre ensemble au sein de l'université. De plus, certains étudiants peuvent être amenés à accompagner leur père en situation de handicap, offrant ainsi un soutien précieux à la diversité et à l'inclusion. Mais il y a des limites à ne pas dépasser. Pour assurer le succès de leurs études et faciliter leur insertion professionnelle, les étudiants étrangers ne peuvent travailler que pour un maximum de 670 heures entre septembre et juin et jusqu'à 300 heures entre juillet et août. Cependant, pour ceux qui ont déjà validé un diplôme de neveu bac plus 2 ou plus, de nouvelles opportunités s'offrent. Ils peuvent postuler pour une carte de séjour salarié pour un contrat à durée indéterminée, CDI ou travail temporaire pour un contrat à durée déterminée, CDD. Il est essentiel de commencer les démarches administratives au moins 2 mois avant la fin de la validité de la carte de séjour étudiant. Avec ces informations en tête, explorons maintenant plus en détail comment ces opportunités de travail enrichissent l'expérience des étudiants étrangers en France et les préparent pour leur avenir professionnel.
Je vous lance la chronique de Leonardo sur la musique angolaise.
Foi aqui onde aprendi a caminhar. Foi aqui onde aprendi a vida amar. Foi aqui onde aprendi a não calar. Foi aqui, é aqui e aqui será o meu lugar. Ai, o engolê. Gola ya mishi ya mie, ai wengole. Gola ya mishi ya mie, ai, 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 ai.
La musique est l'une des manifestations les plus importantes de la culture angolaise. Luanda, capitale de l'Angola, est le berceau de plusieurs styles tels que le kuduru, le merengue, le kazukuta, le kilapanga et le semba. Sur l'île de Luanda, elle naît la rebita, un style basé sur l'accordéon et l'harmonica. Certains précédents que le fado lui-même trouve ses origines en Angola.
Que negra sina ver-me assim, que sorte vil degradante. Ai, que saudade eu sinto em mim do meu viver de estudante. Nesse fugaz tempo de amor que de um rapaz é o melhor, era um audaz conquistador das raparigas. De capa ao ar, cabeça ao léu, só para amar vivia eu.
Air colonial. En comparaison avec nombre de ses voisins d'Afrique australe, ainsi qu'avec d'autres colonnes portugaises, la musique angolaise a connu peu de succès international. Dans les années 1800, les musiciens angolaises ont expérimenté des styles populaires du monde entier, notamment les valses et les ballades. Avec la première moitié du XXe siècle, sont apparus des big bands qui chantent en portugais et en langue kimbundu. Les premiers groupes à se faire connaître en dehors de l'Angola furent les Du Ouro Negro, créés en 1956. Après son succès au Portugal, les Duo partent en tournée en Suisse, en France, en Finlande, en Suède, Dinamarque et en Espagne. Vient ensuite Jovens do Brenda, qui était le plus populaire à la fin des années 60 et au début des années 70, ainsi que Mestre Camoço et Voto Neves, nom très importante de la musique folklorique angolaise. Après l'indépendance. Après l'indépendance, il y a eu la guerre civile angolaise. De nombreux musiciens populaires ont été tués et certains épargnés ont tout simplement quitté le pays, comme Bonga, par exemple.
Que okumi já me chega, Kamboa. Que okumi já me chega.
Ai, Kamboa, não chora, sou gobi. Só vale quem tem, Kamboa, estás a sofrer.
Au début des années 1980, la musique populaire angolaise est profondément influencée par la musique cubaine, notamment dans les œuvres d'André Mingus et de son frère Rui Mingus. Deux chansons les plus connues en Angola sont « Umbi Umbi » de Philippe Mukenga et « Mushima » de Valdemar Bastos.
Umbi umbi yange yelela twende, kakele kachimbamba osala posi. Umbi umbi yange yelela twende, kakele kachimbamba osala posi. Watorila jimujibie. Watorila jimujibie. Watorila jimujibie mama. Jibila zika soka wa Mushima wehe Mushima wehe Mushima Mushima wehe Mushima wehe Mushima.
Toutes deux aussi de cette période de transition entre la rumba cubaine et le semba, la rumba angolaise et la kizomba. Parmi les autres musiciens angolais populaires de cette période figurent Alberto Teta Lando, Carlos Lamartine, Miguel Rodolfo Kitushi, Philippe Zau, Gabi Monteiro, le groupe Afra Soundstar et Samanguana. Kizomba.
De hoyo monte
les années 1950 et 1960, en Angola, de nombreux styles musicaux typiquement angolais étant dansés dans les grandes fêtes connues sous le nom de kizombades, comme le merengue, le semba, la maringa congolaise et le kadouk, qui donnaient naissance à la rebite. La kizomba, en tant que danse, trouve ses origines précisément dans ces soirées avec ses danseurs renommés tels que Mateus Pelé du Zangado, João Comet, Joana Pernambuco ou Jacques Rumba, qui étant les plus connus et écrivant sur le sol les passages notoires de leur style d'affixage au rythme semba. Ces foules ont évolué au fil du temps vers un style plus lent, suivant également un rythme de semba moins précipité, déjà typique dans les années 1970 et connu sous le nom de cembalo, un rythme moins traditionnel mais plus apprécié des jeunes, devant un mélange de rythmes et de saveurs, une danse pleine de chaleur et de sensualité qui favorise une véritable complicité et empathie entre les couples. Ce style a commencé à évoluer entre 1980 et 1981 avec des groupes comme Ushfashus, un groupe lié aux Forces armées populaires de libération de l'Angola et dirigé par Belle du Samba et les Afro Sound Stars, qui mélangent les sambalans avec les kilapanga, conduisant à l'émergence d'un rythme connu sous le nom de kizomba. Un autre nom important de la kizomba était Eduardo Paine.
Mushima wa miwolokata, por conta desta mulata, porque esta mulata dia me mata. Embawe
Kuduro. Les paroles du rythme Kuduro se caractérisent par leur simplicité et leur humour. Ils sont généralement dirigés en portugais et suivant avec un peu de vocabulaire. Aussi des langues traditionnelles angolaises comme par exemple l'umbundu, le tchoko, le luval, le congo et le kimbundu. Apparu dans les années 1980, le kuduro est modernisé avec de nouvelles danses et le mélange d'éléments électroniques avec la musique populaire, nouveaux rythmes instrumentaux et groupes musicaux créant pour leur propre figure et représentation comme prendre des cheveux, voix na grelha, les têtes du kuduro, sebem et pai diesel, ou utiliser des costumes typiques comme le Namaïr de Príncipe Ouro Negro et Président Gasolina.
É meu aniversário.
Yes!
Hoje é meu aniversário. Estou de parabéns.
Ai, minha voida!
Hoje é meu aniversário. A toda minha família quero agradecer.
Obrigado pelo amor.
A todos meus irmãos quero agradecer.
Obrigado pela paciência.
Tudo bem, tu treina DJ. Deixa o som rolar.
Merci beaucoup.
A todos meus amigos quero agradecer.
também os inimigos. Quero agradecer.
Obrigado por me tornar forte.
A todos os meus colegas. Quero agradecer.
Obrigado pela confiança.
Hoje é meu aniversário.
En ce moment, sur le campus de l'Université d'Orléans, c'est la période des partiels, ces fameux examens permettant d'obtenir son année. Alors, avec Marine, on est allé interviewer les étudiants pour savoir comment ils vivaient cette période qui, bien souvent, est caractérisée de stressante, mais on verra que c'est pas le cas pour tout le monde. Alors, tout de suite, sur Radio Campus Orléans, c'est le micro-trottoir auprès des étudiants sur les partiels et la scolarité.
Dans quel cursus es-tu ?
Je suis en MAP, mention histoire. Donc MAP, c'est métier de l'accompagnement politique.
Je suis dans le cursus LEA anglais-japonais.
Je suis en LEA anglais-japonais.
LEA anglais-japonais en L2, mais Ajac.
Je suis en LEA anglais-japonais en L2.
Je suis en licence mathématique.
En LEA anglais-allemand.
LEA anglais-allemand, parcours Ziegen.
Je suis en troisième année de licence en géographie et aménagement.
Moi, je suis en troisième année de géographie et aménagement aussi.
Comment appréhendes-tu la période des partiels ?
Je crois qu'on est toujours un peu stressé avant les partiels. On essaye de prendre ça de la meilleure des façons, en se préparant un maximum à l'avance. Sauf que on s'y est pas très bien pris, du coup je suis un peu stressé.
C'est une période assez stressante parce qu'il y a beaucoup de choses d'un coup. Mais là ça va, pour le deuxième semestre, on a que les partiels de japonais parce qu'on a déjà passé le reste. Donc ça va, c'est un peu moins stressant que le premier, mais c'est quand même pas mal.
En vrai, je me dis que ça passe parce que je sais que j'ai validé mon S2 avec 16 de moyenne. Je me dis ça passe, je stresse plus.
J'appréhende pas, j'essaie de survivre.
J'appréhende un petit peu, surtout les matières d'application. On a pas mal de contrôle continu, mais on a quand même pas mal de matières en contrôle terminal, donc ça fait beaucoup.
Sereinement, je suis un peu confiant et voilà.
Je suis en plein dedans, mais en vrai ça va, c'est assez chill.
Ben, personnellement ça va parce que je trouve que c'est... Enfin, on a pas mal de contrôle continu, donc en fait c'est vachement bien réparti. Donc ça va, si on s'y prend bien à l'avance, parfait.
Plutôt bien parce que c'est ma dernière année et j'ai que deux partiels, donc je suis pas stressée par rapport à ça.
Moi je vais quand même relativiser, je pense qu'il y a quand même un peu de stress. Et d'un autre côté aussi, je dis que c'est le moment de prouver ce que j'ai appris. Et face à cela, je suis parfois un peu confiant, mais parfois ça fait douter aussi, puisque on ne sait pas qu'est-ce qui va venir. Donc ça stresse un peu, voilà.
Quel est l'enjeu des partiels pour toi ?
C'est de réussir mon année.
L'enjeu des partiels, bah, forcément, c'est de passer la deuxième année. Mais bon, c'est aussi se prouver, parce qu'en japonais, je peux partir en troisième année, c'est aussi se prouver capable de s'évaluer à son propre niveau, savoir si tu es capable de partir ou pas. Et c'est très important, en vrai, c'est le moment de savoir s'il faut redoubler ou pas pour avoir un meilleur dossier.
Du coup, vu que je suis en L2, ça va être mon voyage l'année prochaine en échange. Du coup, y a quand même un gros enjeu, hein, de pas super à l'aise.
En vrai, vu que j'ai été prise au Japon l'année prochaine, bah c'est ça. Mon billet d'avion aussi que j'ai déjà payé, ça c'est pas mal aussi.
C'est d'avoir son semestre et d'un point de vue un peu plus large, du coup, pouvoir partir en mobilité l'année prochaine ou sinon juste continuer à valider jusqu'à la fin de la licence.
L'enjeu c'est pour moi de les réussir et en gros réussir son année et entamer la prochaine année avec sérénité et rigueur.
Avoir ma licence, ce serait cool.
Ouais, aussi avoir ma licence. Hein.
C'est quand même assez important parce que là, ça finalise mon diplôme. Et vu qu'après, je souhaite continuer en master, bon, faut quand même que j'ai mon année. Donc, il y a quand même un certain enjeu vis-à-vis de ça.
Je pense que l'enjeu des partiels, pas forcément pour moi, mais pour tout étudiant, c'est le moment là de savoir si on a vraiment appris les connaissances, si on a vraiment les capacités qu'on nous demande. Donc c'est une période de retransmission en fait du savoir. Donc c'est une période qui nous montre vraiment si on a vraiment compris ou si on est passé à côté quoi.
Te sens-tu submergé par la charge de travail et autres activités professionnelles ou plutôt serein et pourquoi ?
Je pense que je me sens submergé parce que je ne m'y suis pas pris assez à l'avance. Donc là, j'ai énormément de choses à réviser en peu de temps et j'aurais dû mieux organiser mon planning.
En vrai, moi, c'est un peu particulier parce que je fais un truc à côté dans une association. Genre, je suis entraîneur de volley. Et alors, les deux ensemble, c'est un peu compliqué. Mais en vrai, si tu trouves le bon pour le contre, au bout d'un moment, ça va tout seul. Faut juste trouver le truc, comment réviser et le moyen de réviser bien. Mais ça va en vrai en ce moment. J'arrive à peu près à balancer les deux.
Ah non, bah non, on est bien submergés. Hein. Ah, c'est fun. En plus, bah, du coup, il y a tous les dossiers à rendre. Il y a les partiels, il y a des cours. Il y a des cours de 30 pages. 40. Oh purée. Enfin, c'est vraiment, c'est chaud quoi.
Trop submergé. Genre, on a tout en même temps. Et pas assez, vraiment pas assez de temps pour réviser. On est overbooké.
En fait, ça dépend des matières. Ce qu'on a en contrôle continu, plutôt sereine, parce que c'est du travail qui est très échelonné. Mais on a pas mal de matières qui s'enchaînent en une semaine. On va enchaîner droit, marketing, etc. Et comme l'a dit Sacha juste avant, c'est des gros CM. Donc ça fait un peu beaucoup sur une aussi courte période.
Submergé, je dirais que c'est un peu trop fort. Mais je suis un peu quand même chargé par le programme et en parallèle mon job étudiant qui est à côté qui prend un peu de mon temps.
En vrai, je me sens assez sereine parce que je sais que j'ai des facilités, mais je sais qu'il faudrait que je travaille et que je me repose sur ces facilités, c'est vraiment pas bien. Mais je travaille à côté, du coup, en vrai, je me dis l'argent, les cours, je peux avoir les cours en ayant de l'argent, du coup, bah, en vrai, ça va, je me sens pas submergée, en vrai, c'est cool.
Non, je me sens pas particulièrement submergée, mais je sais que ça fait quand même une charge de travail assez conséquente. Après, bon, je pense que tout est une question de gestion de temps, et si on s'y prend à l'avance et on s'organise bien, je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas en fait.
Alors, par rapport à la fac, ma troisième année de licence, ça va. Par contre, par rapport aux candidatures de master, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que j'ai fait beaucoup de demandes et donc c'est plus compliqué à gérer. Mais sinon, globalement, ça va, c'est tranquille.
Oui, forcément. Moi, je pense que... Déjà, moi, je prends mon cas, je suis étudiant international. Ce n'est pas le même cas qu'un Français. Bon, moi, je suis venu ici, c'est une autre réalité que ce que je vivais chez moi, dans mon pays. Et après, c'est vrai, il y a beaucoup de pression parce qu'il faut travailler à côté, il faut faire d'autres choses. Et puis... combiné avec les études, la pression des cours, des dossiers à rendre, et des cours à réviser. Franchement, c'est pas facile. Donc, je pense que sur ce point, il y a vraiment beaucoup de pression.
Comment appréhendes-tu ta poursuite d'études ?
Très sereinement. Étonnamment, oui, très sereinement.
Alors, en vrai, au premier semestre, j'avais un peu de mal. Mais là, je me suis bien remis dedans et j'ai trouvé surtout le bon moyen de réviser. Et ça va beaucoup mieux. Et du coup, bah, je pense que ça va bien. Je pense, j'espère.
Bah en vrai, je me dis que je m'en occuperai plus tard. J'y pense pas trop pour l'instant parce que sinon je me dis que c'est foutu pour moi.
J'appréhende pas, je vis au jour le jour.
Je sais pas encore trop. Je sais ce que je veux pas faire, mais c'est plus facile de savoir ce qu'on veut pas faire que ce qu'on veut faire. Mais j'ai prévu de continuer et de voir un peu. Je sais qu'on a un stage en L3, du coup ça nous permet de voir un peu ce qu'on veut faire. Puis la mobilité aussi, ça nous permet d'en apprendre plus. Donc je sais pas encore, mais...
Ma poursuite d'études, c'est pas trop clair pour moi pour le moment. Mais je m'arrêterai quand même pas à ma licence. J'irai au bout et je ferai peut-être de la recherche. Mais je sais pas dans quoi pour le moment.
Je stresse beaucoup parce que je pars en Allemagne là dans 3 mois pour finir mes études, mais sinon ça va, ça me paraît ok.
Bah je pars aussi l'année prochaine, le semestre prochain l'année prochaine je pars en Allemagne aussi, donc en vrai c'est juste un nouveau système éducatif, donc ça va être différent. Après c'est juste ça, c'est juste voir comment ça va se passer en Allemagne parce que c'est pas pareil qu'en France, logique, tout ce qui est compensation de notes, c'est ça qui me fait un peu plus peur, mais après sinon ça va.
Bah, je suis plutôt confiante, mais bon après voilà, à voir où je serai prise parce qu'il y a quand même beaucoup de concurrence pour les masters que j'ai demandé, mais il n'y a pas de raison que ça marche pas et enfin voilà, je le sens plutôt bien.
C'est un tout petit peu mitigé parce que ça ne dépend pas forcément de moi. Moi, je prends un exemple. Peut-être que j'ai envie de poursuivre. Je n'étais pas en géomatique, mais je fais des candidatures. pas que en géomatique. Et je candidate pour différentes filières, différentes formations, parce que je ne sais pas les critères de sélection de ces masters-là, et les prérequis de chaque université, de chaque enseignement. Donc c'est un petit peu compliqué. Je peux avoir une passion pour une branche donnée, mais que je n'ai pas d'acceptation dans cette branche-là, et que j'ai une acceptation dans une branche que je n'ai pas envie de faire. Mais malheureusement, je suis obligé d'aller là-bas. Donc c'est vraiment compliqué. Donc c'est chaud.
C'est chaud, c'est vraiment chaud pour ces étudiants, mais ils ont l'air de bien gérer.
Ouais, franchement, moi oui. Je trouvais qu'ils étaient plutôt sereins en général.
Ouais, je trouve aussi. Et toi, Anna, t'es en période d'examen aussi ?
C'est Marine.
Marine, pardon.
Hein ?
Période d'examen.
Ah non, vu que je fais mon stage, on a tout fait un contrôle continu au cinquième semestre.
Et toi, non, Anna ?
J'ai encore des dossiers à rendre, mais j'ai fini les partiels en présentiel.
Des 30 pages aussi.
Exact.
On va faire le jeu des nés des morts. On a Alexia et Viviane dans le studio. Coucou. Ah, on n'entend toujours pas.
Hello.
Coucou Viviane.
Salut.
Ah,
ça marche.
Très bien,
c'est génial.
Ça marche, yes. Je passe un petit jingle. Et on commence le jeu des naissances et des morts. Écoute ta fac sur Radio Campus. Pour le premier personnage d'aujourd'hui, il est né le 31 avril 1990 à Harrow, dans le Grand Londres. Il est un acteur britannique d'origine indienne.
Dev Patel.
Oh my god, mais tu fais ça comment? Incroyable.
Elle ne vit que pour
Dev Patel. Je ne vis que pour lui. Non, mais vous l'avez vu ou quoi?
Ouais, oui.
Ah, oh là là. Il était dans Skins, le glow up, le gars.
Je ne sais pas.
Voilà. Mais c'est de mon âge. Et là, le gars, mais il est. Désolée, je ne l'aime pas que pour ça. Hein.
Il a de la chance. Le deuxième, il est né le 23 avril.
Mais on n'en apprend pas plus sur lui ?
Je
sais pas. Hein.
J'ai déjà fermé la page.
J'adore. Pardon, j'ai rien dit.
Tu peux nous revenons dire en toi, un peu de lui ?
Ouais, bah du coup, c'est un acteur britannique d'origine indienne.
Il est le 23 avril.
Il a commencé dans la série Skins, première génération, parce qu'il y a eu plusieurs générations de cette série.
Ouais.
Après, il a joué dans Slumdog Millionaire, il me semble. Il a joué dans un épisode de Modern Love, qui est une série d'anthologie, en fait, sur. Voilà.
Je connais pas.
Qui se passe à New York, et il joue dans un épisode qui est plutôt chouette. Voilà.
Très
tout
bien.
Ce que je peux dire.
Il est beau gosse.
Il est beau gosse de ouf.
Le deuxième, il est né en 23 avril 1977 à West Newbury, Massachusetts. Il est un acteur catcheur et rappeur américain. Il travaille actuellement à la World Wrestling Entertainment en tant qu'agent libre. Sous. Ah non.
Jimmy Fox.
Non.
Catcheur?
Oui, il a commencé sa carrière de catcheur professionnel en 1999 la Fédération indépendante de la Ultimate Pro Wrestling, où il a remporté le championnat du monde poids lourd.
J'en connais pas beaucoup des catcheurs. John Cena ?
Ouais, il est très connu.
C'est John Cena ?
Ouais, c'est John Cena. Le troisième.
Je savais pas qu'il était agent libre, c'est ça qui m'a perturbée.
Ouais, je sais pas, moi non plus. Le troisième, dramaturge, poète et acteur anglais, baptisé. On ne sait pas le jour de sa naissance.
Mais Shakespeare.
T'es en forme aujourd'hui.
Ouais, c'est William Shakespeare. Il était mort le 23 avril. Troisième personne, née le 23 avril 1977 à Birmingham, et il est un humoriste, scénariste, acteur, producteur et animateur de télévision britannique naturalisé américain. Il se fait principalement connaître aux États-Unis pour son travail de faux correspondant dans l'émission satirique.
John Oliver.
Yes. Bingo.
J'adore John Oliver.
Ouais. Moi, je ne connais personne.
Mais il présente sur HBO l'émission Last Week Tonight.
Oui, with Johnny Oliver.
Et c'est super bien et c'est visible sur YouTube. On peut les voir. On peut voir les émissions sur YouTube. C'est souvent, il aborde des sujets un peu épineux et bien en profondeur. Genre la NRA, les student loans, les prêts étudiants américains. Et donc, c'est plutôt chouette. C'est mon petit rituel du lundi matin, en fait, c'est de, parce que ça passe le dimanche soir sur HBO.
Ah oui,
et donc, c'est dispo sur YouTube le lundi matin. En général, quand je me lève, je regarde ça.
Actrice américaine, née le 23 avril 1960 à Wilmington, Delaware, aux États-Unis. Elle s'inscrit à la Tammy Lynn School of Artists, où elle se forme au théâtre. À la fin du cursus, Tammy Lynn devient la manager personnelle de cette actrice. En 1975 sort la première série télévisée Au fil des jours. 4 ans plus tard sort son premier film Chomps, écrit C-H-O-M-P-S, genre c'est point, bon, Chomps.
C'est quoi, c'est Triomphe, non? C'est pas ça que ça veut dire?
Je sais pas.
Je sais plus.
Chomps.
Chomps. Et pas Trump?
Non. En 1986, elle est dans Ordinary Heroes. 1987, Number One with a Bullet. Elle était dans The Secret of Charles Dickens, Young Love, First Love, The Promise of Love, The Princess and the Cabbie, I Was a Mail Order Bride, The Seduction of Gina, Ainsi soit-il, Le Témoin silencieux, Rockabye, À nous deux, Manhattan, Taken Away, Sydney, In a Child's Name, What She Doesn't Know, Murder of Innocence, A Kiss for a Life, Two Mothers for Zachary, Puzzle Criminal. Rien.
Rien du tout. Surtout que ça se trouve, on ne connaît même pas les noms en anglais de ces films.
Peut-être.
Ça se trouve, c'est possible.
Confession d'une star, Des yeux dans la nuit.
Il y a des choses récentes
Oui, 2015, Hot in Cleveland.
Ah, j'ai pas vu ça.
Non. En 2021, elle a eu le prix de meilleure hôte de programme culinaire pour, bah, y a son prénom, Holmes Cooking.
Martha Stewart?
Non.
Je sais pas.
C'est Valérie Bertinelli.
Ah, je la connais pas. Tu connais, Viviane? Non, vous connaissez?
Non.
Non, non.
Bah, prochain écrivain et réalisateur américain de documentaires engagés.
Il Michael Moore?
Oui, c'est Michael Moore.
Non, mais on apprend à pas jouer. Hein.
Ouais.
Pardon.
C'est pas grave.
J'ai l'esprit de compétition.
Alors, née le 23 avril 1928 à Santa Monica, Californie, et morte le 10 février 2014 à Woodside, elle est une actrice, chanteuse, danseuse et diplomate américaine. Elle tient une place à part dans l'histoire du cinéma. Elle est en effet la première enfant star à avoir connu une renommée internationale, en grande partie en raison de sa longue filmographie.
Shirley Temple.
Yes, Shirley Temple. Alors, prochain personnage, né le 23 avril 1936 à Vernon, Texas, et mort le 6 décembre 1988 à Hendersonville, Tennessee. Il est un acteur, compositeur, interprète américain, un pionnier du rock'n'roll, surnommé Something.
Surnommé Something. C'est quoi les dates déjà?
1936.
C'est Elvis?
1988.
Oui, c'est Elvis.
Non, c'est non. Pas Elvis.
Il est mort plus tôt que ça.
Ah bon?
88, ouais.
Ouais.
Il est
70
mort 70, ouais.
Ouais.
60.
Oui. J'essaie de trouver.
Mort en 88. Bon, on t'écoute, pardon. Excuse-nous.
Alors, le 19 novembre 1988, il présente sa nouvelle chanson You Got It devant une foule.
Ah, Roy Orbison.
Yes. Roy Orbison. Yes. Poup, poup, poup. Alors, c'est là, j'espère que Anna et Marine peuvent la connaître. Alors, elle est née le 23 avril 1995 à Los Angeles, États-Unis. Elle est mannequin américain. Sa carrière de mannequin débute lorsqu'elle est enfant à l'âge de 2 ans, après avoir été découverte par le cofondateur de la marque Guess, Paul Marciano. Elle pose alors pour Baby Guess. Elle se concentre ensuite sur sa scolarité. En 2011, elle revient dans le milieu de la mode en prolongeant sa collaboration avec Marciano et en devenant l'égérie d'une compagnie publicitaire Guess. En 2017, elle est la photographe de la compagnie publicitaire de la marque Versace par Zayn Malik, appelée Zayn X Versus.
Les Hadid, je ne sais pas quoi.
Laquelle?
Gigi.
Gigi. C'est Gigi Hadid.
Oui, c'est Gigi.
Une famille au moins.
Point pour Marine et Anna.
Moi aussi, je l'avais.
Et Alexia.
Tu t'es tue. Tu as su attendre.
Chanteuse française, née le 23 avril 1941 à Paris. Fille, non, je dirais pas les prénoms de ses parents.
Népotisme.
Elle a remporté le concours Eurovision de la chanson.
France Gall.
Non.
Non,
non, c'est pas elle. Non, elle a remporté le concours Eurovision de la chanson 1960 pour la France avec la chanson Tom Pilibi.
Quoi?
Tom Pilibi.
Tom Pilibi.
Alors, je la connais pas.
Hein. Je connais pas cette chanson, non.
Mais
France Gall, elle a pas gagné pour la France. En plus, elle a gagné pour la Belgique ou la Suisse.
C'est la Belgique, t'as raison.
Elle décide très rapidement de
Nicoletta.
Non.
Je sais pas, j'essaye des trucs.
Elle décide très rapidement de poursuivre une carrière de chanteuse comme sa mère, dont elle adopte le patronyme. À 18 ans, elle chante pour la première fois sur une scène au Théâtre de l'Étoile, aux côtés de Marlène Dietrich. Encouragée par les critiques positives, elle décide de persévérer dans son choix et prend ses cours de chant. En 1959, son père participe au concours Eurovision de la chanson pour Monaco. Il termine cependant dernier avec un seul point.
Golos. Loser.
La même année, sa fille publie son tout premier disque. Alors, j'essaye de trouver des albums, des chansons. Alors, des albums. 1959, Tu es le soleil de mon cœur. Oh. 1960, Tom Pilibi.
Tom Pilibi, du coup, hein, quand on y revient.
Comme au premier jour, Coucou, Chepanier.
C'est qui, c'est Annie Cordy ou quoi? Coucou, Chepanier.
1961, Pépé. Il fait gris dans mon cœur.
Coucou,
Pianissimo, Le pont vers le soleil, Excusez-moi, si j'ai 20 ans, D'autres avant toi, Le temps de la vie, La mer, la plage, Time and time again.
La plage?
La mer, la plage.
Ah.
Des singles, Tom Pilibi.
Est-ce qu'il y a un single Coucou Chepanier aussi ou pas?
On veut la pochette.
Ouais, je veux la pochette de ça, ouais. C'est clair.
Butterfly, Little China Girl, Oh Chérie, je t'aime. Very good, c'est si bon.
Tu vois ce que c'est? Ouais.
Moi, j'ai de la chance. Elle a aussi été dans des films, je pense, allemands. C'est de l'allemand, ça. Je vais pas essayer de lire les titres.
Abandon.
Abandon de ses singles. La roue tourne, Tour Eiffel, Parlez-moi d'amour. Life is new, C'est la vie, Mélodie de Paris.
J'en peux plus.
C'est Jacqueline Bauer.
Jacqueline Bauer.
Boyer,
Boyer.
Boyer.
Oui, Boyer.
D'accord. Non, je connais pas tellement.
Non, moi non plus.
Même pas de nom, en fait, je crois.